Boum, on retrouve le direct une fois de plus avec Daniel Tanoureau, un ami belge, aussi un de plus. Bienvenue à toi, Daniel.
Merci, bonjour.
Bonjour. Ingénieur agronome, ça c'est ton premier métier, mais maintenant tu m'as avoué que tu étais à la retraite. Mais j'imagine que quand on a ce genre de compétences et de soins et d'observation du vivant, en fait, on ne s'arrête pas vraiment.
Non, pas vraiment. En effet, je travaille beaucoup, je travaille trop.
C'est-à-dire qu'effectivement, tu prétends ne pas pouvoir vraiment profiter de ta retraite?
Je me force un peu, j'essaie de m'occuper de mon jardin, de m'occuper de mes proches. Ce sont des choses très agréables et j'en ai besoin de plus en plus avec l'âge. J'avoue que et il faut que je souffle un peu, je suis moins capable de tenir des marathons que dans le passé.
Oui, bien sûr, il faut prendre ça aussi en considération. Alors actuellement, c'est vrai que la question écologique, elle est moins dans l'avant-plan, en tout cas des médias, mais évidemment beaucoup de personnes y pensent et y travaillent encore. Elle est un peu reléguée, je dirais même, au deuxième plan, dû au fait que, y a des atrocités peut-être plus visibles et atroces, comme le génocide gazaoui actuellement. La guerre en Ukraine, le Covid juste avant, qui fait que la question écologique, elle est un peu, elle a pas été un peu oubliée quand même, généralement. Toi qui travailles là-dessus depuis quelques années, qu'est-ce que tu vois à ce niveau-là?
Oui, c'est vrai que la question, le défi de la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui tend à être relégué à l'arrière-plan, au deuxième plan dans l'actualité médiatique, du fait effectivement du carnage en cours à Gaza, de l'offensive impérialiste russe en Ukraine, et puis auparavant de l'épidémie de Covid. En même temps, ces trois événements ne sont pas indépendants des enjeux environnementaux, pas du tout. Pour le Covid, c'est probablement assez évident, dans la mesure où il est fort probable que l'apparition du SARS-CoV-2, de ce virus, a un lien avec la destruction de la biodiversité par le productivisme capitaliste. Donc, ce serait une des causes probablement la plus probable. L'autre possibilité, c'est que le virus soit échappé du centre d'analyse des virus de Wuhan. La vérité n'a pas encore été faite, n'a pas encore été dite de façon irrévocable. Mais donc, ça a à voir avec la crise écologique si l'hypothèse destruction de la biodiversité est exacte. Quant à l'Ukraine et à la Palestine, parce qu'il n'y a pas Gaza, là aussi, il y a des enjeux environnementaux derrière, hein, absolument. L'Ukraine, c'est les sols les plus riches au monde, les fameux tchernozèmes, comme on les appelle, des sols qui ont jusqu'à 1 mètre ou plus de profondeur, contiennent énormément de matière organique, une très grande fertilité. C'est depuis des siècles l'enjeu de rivalité entre les puissances impérialistes. Le régime tsariste a conquis l'Ukraine pour cette raison-là, entre autres. Ça faisait partie de son projet d'empire. Il y a eu une brève parenthèse avec le régime soviétique, la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple ukrainien et des autres nationalités. Mais très rapidement, cette parenthèse s'est refermée. Puis les nazis, le plan d'Hitler pour l'Ouest, le Ostplan, visait essentiellement à conquérir le pactole des terres ukrainiennes. Pour constituer un autre empire terrestre, puis l'Union soviétique a repris le flambeau et maintenant avec la Russie, depuis la chute du mur, la Russie veut réacquérir ce grenier à blé, comme on l'appelle. C'est un enjeu sous-jacent de cette guerre impérialiste de la Russie contre les droits du peuple ukrainien. Et en Cisjordanie, il y a aussi un enjeu écologique sous-jacent, notamment à travers la question de l'eau, la disponibilité, l'accès aux ressources en eau du territoire. Qui va contrôler les ressources en eau? Qui va pouvoir les utiliser? Un des enjeux de la colonisation en Cisjordanie, une colonisation criminelle, c'est le contrôle des ressources hydriques du territoire et le terrible massacre que l'armée israélienne commet en ce moment à Gaza vise à punir de façon paroxystique le peuple palestinien pour que plus jamais, dans l'espoir que plus jamais il n'oserait résister à la volonté coloniale du sionisme de contrôler les ressources du territoire.
La volonté sioniste, donc effectivement, elle va même, à mon avis, plus loin. C'est-à-dire que par couper l'eau, elle voudrait que ce peuple palestinien disparaisse à proprement parler. Il ne veut pas l'empêcher de faire quelque chose. Il ne voudrait juste pas qu'il soit là. S'il faut le massacrer manu militari, il serait prêt. Mais là, je vois plus quelque chose de l'ordre d'un nettoyage ethnique ou de quelque chose qui se voudrait définitif. C'est-à-dire ne plus être embêté par la question du peuple palestinien.
Voilà, voilà. Mais donc, il y a une escalade dans ce sens-là. Je ne suis pas un spécialiste de cette question de la Palestine, mais il me semble clair qu'il y a une escalade depuis plusieurs années, en tout cas depuis que Netanyahou est au pouvoir, dans le sens d'une épuration, d'une nouvelle Nakba, d'une épuration ethnique radicale de la Cisjordanie, de chasser les Palestiniens du territoire. Mais auparavant, l'enjeu de l'eau, était un enjeu majeur, et je crois qu'il le reste aussi, tant que ce projet d'épuration ethnique n'a pas été mené à bien.
Oui, les ressources au cœur d'à peu près tout. Tu disais tout à l'heure par rapport aux deux alternatives par rapport à SARS-CoV, qui, à mon avis, même si le virus était sorti du laboratoire, ce qui est tout à fait possible, à mon sens, c'est aussi une mise en accusation du capitalisme, puisque si on développe des armes, c'est bien pour contrer une menace qu'on considère comme étant le concurrent ou autre, que ce soit le pays, etc. Donc c'est un peu cette même dynamique de voir l'autre, le voisin, comme un ennemi juré, dont il faut se défendre et se prévaloir au risque de faire n'importe quoi. Donc pour moi, il y a aussi ce lien existant.
Oui, tout à fait. Enfin, on est dans le capitalisme, le capital est partout.
Voilà, le capital est partout. Et d'ailleurs, c'est le premier livre que j'avais lu de toi, qu'on m'avait offert, tu l'avais écrit en 2011, c'était L'impossible capitalisme vert. Pourtant, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui chantent que ce capitalisme peut se verdir, où tu faisais, je ne sais pas si c'était le premier, hein, loin s'en faut, mais où, en gros, tu expliquais qu'il y avait une contradiction dans les termes déjà à ce moment-là.
Oui, le capitalisme vert, c'est un oxymore, une contradiction dans les termes au sens strict, en ce sens que la cause commune de toutes les facettes de la crise écologique, que ce soit le changement climatique, la destruction de la biodiversité, la pollution atmosphérique aux particules, l'empoisonnement chimique de la biosphère, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, la destruction des sols, l'acidification des océans, voilà, ça c'est les facettes principales de la crise écologique contemporaine, et toutes ont en commun de soulever la question des limites du développement humain et de l'exploitation des ressources naturelles. Or, le capitalisme, par définition, ne reconnaît pas ces limites, parce que le capitalisme est, par essence, un système productiviste pour une raison que très simple, en fait, et qu'un enfant peut comprendre, qu'une raison que Marx avait mise en évidence dès la première section du livre 1 du Capital, à savoir que la formule générale du Capital, c'est acheter pour vendre, que donc à l'origine, il y a une somme d'argent qui sert à acheter une marchandise et qu'on revend la marchandise contre une autre somme d'argent. Et cette opération économique-là n'a de sens que si la somme d'argent à la fin du cycle est plus élevé que la somme d'argent au début du cycle, évidemment. Si vous investissez 100 euros ou 100 francs suisses et que vous vous retrouvez avec 100 francs suisses ou 100 euros à la fin de l'opération, il n'y a pas d'avance, comme on dit dans mon pays, la Wallonie. Donc ça n'a de sens que s'il y a une plus-value, et la plus-value elle-même n'a de sens que si elle est réinvestie pour une nouvelle opération, et ainsi de suite. Donc le capitalisme n'est pas seulement une économie qui fonctionne pour la quête incessante du profit, c'est une économie qui a pour seul but la course au profit ininterrompue, et rien, aucun indicateur interne du système ne peut le rendre conscient du fait qu'il dépasse des limites. Et dépasser des limites est exactement ce qu'il a fait au cours des 30 ou 40 dernières années, par rapport aux 9 indicateurs de la soutenabilité écologique, les 9 facettes de la soutenabilité écologique que je mentionnais. Il y a 20 ou 25 ans, les spécialistes, les scientifiques qui travaillent sur ce qu'on appelle le changement global, qui donc examinent ces 9 paramètres de la soutenabilité, estimaient que les seuils de soutenabilité étaient franchis pour 3 ou 4 de ces paramètres. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont franchis pour 7 ou 8 de ces paramètres. Ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'on est effectivement plongé dans la catastrophe. Elle n'est plus devant nous, elle est là. Nous baignons dans cette catastrophe, elle se développe, elle monte autour de nous et elle risque de se transformer un délai que personne ne peut prédire, mais qui pourrait être plus rapproché qu'on ne le pense, elle risque de se transformer en cataclysme.
On reviendra sur l'effondrement tout à l'heure. Tu es aussi créé fondateur d'une association qui s'appelle Climat et Justice Sociale. Et
puis, qui n'existe plus.
Qui n'est... Ok, non. Je suis un peu update. Ouais, mais j'ai pas le bon update. Mais on a souvent fait sur ce podcast aussi le lien entre le climat et justice sociale. On voit la jeunesse hein, qui avait, avec les grèves du climat en Suisse et partout dans le monde, manifester pour une justice climatique. Et puis on les voit aujourd'hui dans les universités descendre pour une justice sociale, alors internationale parce que massacre à Gaza, mais plus largement aussi pour défendre les droits fondamentaux. Pourquoi tu avais créé cette association ? Alors, si elle n'a pas, ou si elle a périclité, quelles en sont les raisons ?
J'ai pas envie de rentrer dans un débat sur les raisons qui ont expliqué le fait que...
S'il y en a qui soient idéologiques.
Oui, non, il n'y en a pas qui soient idéologiques. Mmh. Bon, il y a notamment le Covid a joué un rôle.
Oui,
mais pourquoi l'association avait été fondée avec cet intitulé-là en réaction à, disons, une situation de fait qui est bien connue, qui est que les écologistes tendent à se mobiliser uniquement sur les enjeux environnementaux en laissant de côté les défis sociaux, alors que l'origine de la crise écologique réside dans le fonctionnement social et économique du système capitaliste. Et à l'inverse, la gauche traditionnelle, les syndicats, les partis traditionnels de la gauche se focalisent sur la question sociale en estimant que la question écologique vient perturber leur message. Et il me semble absolument évident et même incontestable aujourd'hui que ces deux dimensions qui apparaissent comme séparées sont en fait les deux faces d'une même médaille, que ce sont deux manifestations de la crise, de l'impasse, du pourrissement d'un système, d'une société capitaliste en crise profonde et qui détruit, comme le disait encore une fois Marx, qui détruit à la fois les deux seules sources de toute richesse, la terre et les travailleurs et les travailleuses. Et donc l'enjeu de la justice sociale ou de la lutte contre l'inégalité sociale est en fait véritablement au cœur de la lutte qu'il faut mener contre la catastrophe écologique, pour des raisons qui sont, encore une fois, absolument évidentes. Le pourcent le plus riche à l'échelle mondiale émet plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. C'est une donnée admise par les scientifiques. Elle a même été présentée lors de la COP27 à Glasgow par un scientifique éminent dans son intervention devant les délégués des États. Et ce pourcent le plus riche est responsable de plus de 50% du transport aérien de personnes. Voilà, c'est ça l'inégalité sociale. Alors qu'on sait que ce sont ces activités qui sont principalement responsables de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, récemment, je lisais dans la presse que les actionnaires de Stellantis, le groupe automobile, avaient décidé de récompenser leur principal chef, leur gestionnaire en chef, en lui donnant une nouvelle rétribution annuelle. Et ce modeste salaire équivaut à 500 fois le salaire moyen d'un ouvrier des usines automobiles du groupe. 500 fois. Il y a 30 ans, cet écart n'était que de 50 fois. Donc, l'inégalité sociale s'accroît, le changement climatique continue, les deux phénomènes sont liés, et au-delà du changement climatique, c'est l'ensemble des mécanismes de destruction de la planète qui sont sous-tendus par cette même logique obscène aujourd'hui de l'enrichissement des plus riches au détriment du monde du travail, de la population, des classes populaires et au détriment de l'environnement dont tous et toutes dépendent.
Et tu penses que l'inaction générale face à cette injustice, elle peut être due au fait de la fausse croyance que peut-être avec un peu de chance, si je travaille beaucoup et que je le mérite, je pourrais faire partie de ces 1%. Du coup, je vais pas trop jeter l'opprobre ou me battre contre ce système. C'est juste que, voilà, ben, je vais essayer d'y trouver ma place. Quels sont les... Qu'est-ce qui fait, en fin de compte, parce que moi, je suis conscient de ça depuis longtemps, puis j'ai toujours, entre guillemets, assez vite passé à l'action, élevé les barricades. C'est insupportable pour moi, ça. Mais globalement, tu vois bien que la masse critique des gens qui se plaignent, en tout cas en Occident, je la vois pas augmenter foncièrement. Toi, tu avais écrit L'impossible capitalisme vert en 2011. Est-ce que 14, 13 ans plus tard, est-ce que tu vois des choses qui ont changé ou des raisons de se réjouir ou au contraire, on est dans une impasse dont on ne semble pas pouvoir trop s'en sortir?
Mais je crois qu'il faut d'abord poser un diagnostic sur les causes de la difficulté d'affronter véritablement la crise écologique en tant que crise du capitalisme, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et d'en faire une crise sociale qu'on va résoudre en luttant contre l'inégalité sociale et contre la dynamique productiviste, croissanciste du système. Et la cause de la difficulté, je crois, encore une fois, elle est relativement évidente. C'est que si on veut en sortir, il faut en fait changer de mode de production et de reproduction, comme on dit, comme disent les marxistes. Il faut changer de société, changer d'économie, changer d'organisation sociale. Changer de mode de production n'est pas possible sans la participation au moins de la majorité des producteurs et des productrices, d'autant plus qu'ils constituent la majorité de la population mondiale aujourd'hui. Or, les producteurs et les productrices, salariés, dépendent de leur salaire pour tout. Ils sont dépossédés de tout, même s'ils ont un écran plat et une belle voiture, ils sont en fait dépossédés des conditions de production de leur propre existence sociale. Et c'est ça le plus important. Sans salaire, pas de santé, pas d'école pour les enfants, pas de logement, pas de loisirs, pas de culture, pas de bouffe, sans salaire, rien. Et aucun salarié, aucune salariée ne souhaite évidemment, sauf peut-être quelques fous, ne souhaite la faillite de son entreprise, parce que si l'entreprise fait faillite, ben le salaire disparaît. Et donc tout ce à quoi le salaire donne accès est mis en danger. C'est ça le lien qui unit la majorité de la population mondiale, c'est-à-dire des salariés et des salariés, aujourd'hui au productivisme capitaliste. Quelque part, le capital a fait de ces victimes exploitées les complices ou les collaborateurs involontaires de sa dynamique de mort. Ça, c'est la vérité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et donc, comment faire bouger les lignes par rapport à ça? C'est ça la question clé qui est en débat, la question stratégique majeure.
Bien sûr, mais
Et
déjà, ont-elles bougé depuis
eh bien
10
oui,
ans, 20 ans, 30 ans? Tu les vois bouger?
je trouve qu'elles
Avant de
ont
dire
bougé.
comment il faut qu'elles bougent.
Je trouve qu'elles ont bougé. D'abord, du côté du mouvement environnemental, je crois que c'en est très largement fini des associations de défense de l'environnement qui ne se souciaient que de l'environnement. Je crois que la plupart des organisations qui ont un poids réel dans des luttes ou qui sont actives sur le terrain sont aujourd'hui parfaitement conscientes du fait que si on veut sortir de la crise écologique, il faut une réponse sociale qui soit une réponse socialement juste, non seulement par rapport aux inégalités nord-sud, mais aussi par rapport aux inégalités sociales sud-sud et nord-nord. Bah, le problème du salaire du patron de Stellantis, par exemple, est-ce que ça révolte? Donc ça, c'est un changement. Et je pense que dans les classes populaires, les lignes bougent également. Je constate que depuis une vingtaine d'années maintenant, on voit lorsque des travailleurs, des travailleuses sont confrontés, même dans des secteurs fossiles, des secteurs très liés au capital fossile, pétrole, charbon, gaz naturel, quand les travailleurs, les travailleuses sont confrontés à une fermeture d'entreprise et qu'ils se battent pour essayer d'imposer des reconversions, ils ne se battent plus pour n'importe quelle reconversion dans n'importe quelle activité. L'idée fait son chemin qu'il faut en profiter, pour ainsi dire, pour demander une reconversion dans des activités qui soient socialement utiles et écologiquement responsables. On l'a vu avec cette entreprise qui appartenait à Unilever dans la région de Marseille, qui fabriquait des thés, je ne sais, les Fralip. Je ne sais plus comment ils ont occupé l'entreprise plus de 3 ans, je crois, avant d'obtenir de l'entreprise qui gardent les locaux et se sont convertis en coopérative et fabriquent des tisanes et des trucs comme ça. On le voit dans l'usine GKN en Italie, occupée par les travailleurs, une entreprise du secteur industriel où les travailleurs se battent pour une reconversion dans des activités socialement, écologiquement utiles et responsables. Ils produisent actuellement des vélos cargo et il y a un énorme mouvement de solidarité en Italie et en Europe même avec la lutte de ces travailleurs. On le voit en France avec un combat mené en Normandie, dans la région de Rouen, par les travailleurs d'une papeterie, qui était une papeterie qui avait la particularité de fabriquer du papier recyclé, enfin de papier journal avec du recyclage de papier. La multinationale a fermé en dépit de la rentabilité de l'entreprise. Ils se battent non pas pour n'importe quelle reconversion, on leur a proposé n'importe quoi comme reconversion. Ils veulent être reconvertis dans la continuation de la production de papier recyclé pour l'impression de journaux. Il y a comme ça de multiples signes qui montrent que quelque chose bouge dans la classe ouvrière, comme on dit, dans les classes populaires, parmi ces travailleurs, ces travailleuses qui sont, malgré eux, attachés au productivisme capitaliste. Alors, ça bouge trop lentement, c'est juste, alors que la catastrophe écologique, elle progresse très vite, mais ça bouge et c'est un signe d'espoir, selon moi.
On parlait tout à l'heure de la place, justement, des syndicats. Et toi, tu es un peu impliqué dans différents mouvements syndicalistes, si j'ai bien compris. En Suisse, c'est assez invisibilisé, les syndicalistes, parce qu'on a cette paix sociale via la convention collective de travail. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inexistants et qu'ils ne font pas de travail, ce n'est pas ça que je dis. Mais si on regarde les pourcentages d'ouvriers syndicalisés, par exemple, ou d'employés syndicalisés, en Suisse, c'est très très bas. Et du coup, moi, je ne suis pas trop au courant des leviers. Et je sais qu'à gauche, y a tout un mouvement qui s'appelle syndicaliste, politique, hein, de faire avancer ces forces des travailleurs. Je peux l'entendre. D'ailleurs, j'ai beaucoup lu Chomsky, qui était aussi un syndicaliste. Mais moi, je n'ai pas vraiment encore compris le levier, la force de ce potentiel pour changer la société, si tu veux. Parce que tu parlais du salaire, le salaire, mais moi, j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'étais en faveur du revenu inconditionnel, il a aussi des problèmes, hein, le revenu inconditionnel, il pourrait être récupéré et pourrait être utilisé à des fins de manipulation. Mais néanmoins, de dire, mais c'est pas un salaire dont les gens ont besoin, c'est d'un revenu.
C'est juste, bien sûr.
Alors voilà, peut-être est-ce qu'on pourrait se chapitre un peu du syndicalisme qui est assez faible en Suisse et qu'est-ce qu'on pourrait en attendre en sachant que historiquement on est bien conscient que toutes les avancées sociales elles ont été acquises quand c'est autre
par des luttes sociales,
menées par des syndicats.
En général ou souvent, pas toujours, mais menés en tout cas par des travailleurs et des travailleuses syndiqués ou qui étaient amenés par l'expérience de leur conflit à se syndiquer, à constituer une association de solidarité. Mais la Suisse, on connaît les difficultés particulières de la lutte pour une alternative anticapitaliste en Suisse. C'est un pays très compliqué, très conservateur, pour toute une série de raisons historiques. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est pourtant en Suisse qu'a eu lieu une des expériences qui montrait que les lignes étaient en train de bouger sur la question écologique à l'intérieur des organisations syndicales. Et cette expérience, c'était les grèves pour le climat, le projet d'une grève pour le futur, qui impliquait plusieurs organisations syndicales en Suisse romande, hein, c'est comme ça que vous dites,
Suisse. Oui, la Suisse romande, c'est-à-dire la partie francophone.
La partie francophone, plusieurs organisations syndicales ont été impliquées. C'était une expérience intéressante qui n'a pas... Intéressante parce qu'elle elle témoignait de l'opérationnalité, de la fertilité de ce qu'on pourrait appeler la convergence des luttes et des mouvements sociaux. Il y avait trois composantes dans ces grèves pour le climat. Le mouvement des Fridays for Future, donc les jeunes pour le climat, le mouvement féministe qui est puissant en Suisse et des secteurs du mouvement syndical. Pas tout le mouvement syndical, mais des secteurs et en particulier des responsables, des employés du syndicat qui étaient particulièrement conscients de l'enjeu. Alors, la pandémie est venue là-dessus et a quelque part interrompu l'expérience, qui n'était pas facile. Je ne sais pas quel bilan les protagonistes en tirent. Je ne sais pas s'il y a un bilan écrit de cette expérience. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est retombé en dessous de du niveau de cette expérience qu'il faut reconstruire, mais ça reste une expérience à partir de laquelle il faudrait essayer de progresser, de tirer des leçons et de repartir de l'avant. Donc voilà, donc le paysage n'est pas aussi noir que ce que tu décris, même en Suisse, me semble-t-il.
Un bon indicateur peut-être de la force syndicaliste, c'est le nombre, le pourcentage de syndiqués en Belgique, en France. Tu sais où ça se trouve? Moi, j'ai aucune idée, hein,
Alors,
de
la
ça.
Belgique est un pays tout à fait exceptionnel de ce point de vue-là, parce que nous avons à peu près un peu plus de 80% de syndiqués parmi les salariés et salariées et les travailleurs du secteur public. Donc, c'est un taux de syndicalisation extrêmement élevé et qui ne recule pas en défi, ou peu en dépit de la crise et des politiques d'austérité et des défaites subies par le mouvement ouvrier. Mais c'est un syndicat d'affiliés, d'adhérents. C'est pas un syndicat de militants. C'est la grande différence avec le syndicat français, où le taux de syndicalisation est beaucoup plus bas, autour de 7-8% dans le secteur public, encore inférieur dans l'industrie. Mais on a un syndicalisme de militants, à mi-chemin entre le militantisme syndical à la belge et le militantisme de parti politique, pour ainsi dire, un haut degré de politisation et de formation et de sophistication des programmes et de discussion. Bon, c'est un autre monde. Sur la Suisse, j'ai peu de données. Mais disons, d'une manière générale, le problème auquel le syndicalisme est confronté aujourd'hui avec la crise écologique, c'est qu'il doit faire un choix stratégique. Ou bien il reste attaché à la cogestion de la croissance capitaliste, des objectifs productivistes de toujours plus. Et alors, il approfondit la crise écologique dont ses affiliés et les frères ou sœurs de classe de ces affiliés dans le monde sont les premières victimes, c'est-à-dire les classes populaires mondiales. C'est eux qui sont les principales victimes de la crise écologique. Ou bien ils rompent avec cette politique réformiste d'accompagnement du productivisme capitaliste qui vise à échanger quelques miettes, pour ainsi dire,
Oui,
hein, tombant
clairement.
de la table de la croissance en faveur des affiliés. Et alors, il faut inventer une autre perspective, une perspective qui tient dûment compte du fait que l'accumulation capitaliste a été trop loin, que c'est ça la cause principale de la destruction écologique et de la destruction sociale, et que si on veut avoir une chance, je ne dis même pas une certitude, de restabiliser l'écosystème monde, la condition sine qua non, c'est de faire machine arrière, c'est-à-dire de, non pas en termes, pas de diminuer le PIB, parce que le PIB est un indicateur qui ne veut pas dire grand-chose, mais de consommer radicalement moins d'énergie au niveau mondial, ce qui implique de produire moins et de transporter moins, et qui n'est socialement possible que si on met en avant des revendications en faveur d'une égalité sociale radicale. Hein. On reprend l'exemple de Stellantis, de son patron qui gagne 500 fois le salaire moyen de l'ouvrier, alors qu'il gagnait 50 fois le salaire moyen il y a 30 ans. Donc c'est ça la solution. Il faut s'attaquer à la richesse capitaliste et à la classe sociale capitaliste qui est la principale responsable de la dégradation de l'écologie. Mais donc ça, c'est un tournant stratégique que le mouvement syndical devrait faire, et qu'il ne fait pas facilement pour la raison qui est que, pour une raison qui est selon moi, que ce mouvement syndical s'est très fort institutionnalisé au cours de son développement long, qu'il est aux mains d'une bureaucratie syndicale qui a des intérêts propres, qui tire des avantages propres de son rôle d'intermédiaire entre les classes populaires et la classe capitaliste, et qui est une force d'immobilisme et pas une force de réorientation stratégique, en général.
Oui, donc très fortement, et je suis d'accord avec ça, une lutte des classes qu'il faut remettre en avant-plan. Je vois un peu deux étapes. C'est d'abord surtout en Suisse, qui est un pays très individualiste, mais l'Occident en général, hein, de remettre les gens ensemble pour qu'ils se fassent confiance, puis qu'ils comprennent qu'ils puissent faire des choses ensemble. Ce serait le premier temps. Moi-même, pour une petite anecdote, hein, dans mon dernier emploi, j'ai essayé ça parce que j'étais dans une entreprise pourtant dans la réinsertion professionnelle, donc a priori non-profit, hein, si on peut dire à but non lucratif, c'était une coopérative. Mais on avait grandi beaucoup en peu d'années. Je suis arrivé, on était 60-70, puis quelques années plus tard, 10 ans plus tard, on était en tout cas le double, voire le triple. Et puis, il commençait à y avoir tous les problèmes qu'on trouve dans les grandes entreprises, c'est-à-dire un sentiment d'être contraint de faire ci, de ne pas avoir son mot à dire, etc. Enfin, ce qu'on peut entendre un peu partout, bien que les conditions de travail suisses, si on les compare évidemment à d'autres pays, franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre, bien qu'il y a aussi passablement de pauvres, mais je dis dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Moi qui suis très à l'écoute des gens, voilà, je percevais qu'il y avait un mécontentement profond qui commençait à s'installer et du coup qui diminuait beaucoup l'ambiance. Il y avait aussi passablement de burn-out. Une année, on en a eu beaucoup. Et puis des gens qui partaient, qui venaient, un turnover qui augmentait, etc. Puis j'ai regardé un peu la loi et puis il était noté que si je faisais une quête de signature puis que j'avais un certain nombre, je me rappelle plus exactement le nombre, il me semble que c'était à peu près 30% de signataires dans les employés de l'entreprise, alors la direction devait faire un vote pour que on instaure ou non une commission du personnel. Voilà, j'avais tout regardé la loi, etc. J'ai fait la récolte de signatures tout seul, assez facilement, parce que j'avais un bon contact avec tout le monde. Et donc, ils ont été contraints, alors, ils étaient vraiment, ils étaient fâchés, hein. Ils ont été contraints de le mettre au vote, et au vote, j'ai eu moins de voix que de signatures. Les gens, ils ont dit non. Et du coup, là, j'ai pris un sacré coup une sacrée claque, en fait. Parce qu'il y a l'idée, le mécontentement, etc. Mais en fin de compte, la sécurité quand même. Non, allez, on ne va pas faire de vagues. Et puis les Suisses, c'est aussi peut-être encore plus comme ça, comme culture. Tu te disais tout à l'heure, on n'a pas cette habitude de la confrontation non plus, j'imagine. Du coup, ben, pour moi, si tu veux, peu importe après ce qu'elle allait porter la commission, bien qu'évidemment, moi-même, j'ai mes espoirs et mes idées pour un changement que je veux voir advenir. Mais même cette première étape de dire, mais mettons-nous ensemble pour réfléchir entre personnes du même niveau, ben, elle a échoué. Et là, je vois une réelle difficulté de part aussi la culture qu'on a, hein, qui est très éclatée, chacun pour soi, chacun contre soi, les médias qui nous présentent certaines choses. Voilà, comment t'entends ce que je dis? Est-ce que tu vois ces mêmes difficultés? Parce que je vois aussi beaucoup de syndicats qui, finalement, il y a beaucoup de bisbilles, les gens se tirent dans les pattes. On sait que la gauche, elle a une habilité à se diviser qui est plus forte que tout le monde. Enfin, c'est comme si on aimait bien un petit peu se battre contre tout et tout le monde. Donc, moi, je vois quand même un peu un paradoxe et puis un cul-de-sac, quoi.
Et donc,
Et donc. Je continue de faire à mon petit niveau, d'essayer des choses locales, des choses qui réunissent surtout, parce que je vois que d'abord, avant de repolitiser, il faut que les gens ils s'occupent de quelque chose qui leur tient à
Ah
cœur.
oui, ça c'est certain, oui, c'est le début de la politisation.
Exactement.
C'est de se
Alors,
préoccuper collectivement,
ouais, c'est
de
ça.
préférence, de problèmes qui vous impactent dans votre quotidien. Hein?
C'est
C'est même
ça.
le début d'une prise de conscience sociale, politique, écologique.
C'est
Bon,
ça.
mais il me semble qu'il y a pas mal de possibilités à cet égard. Enfin, moi, je connais mal la situation sociale, syndicale suisse et
Oui, mais
je
est-ce
ne
que
me
tu vois
sens
ces mêmes
pas.
dynamiques en Belgique ou en France? Parce que finalement, le changement, bien que culturellement ça soit un peu différent partout, il va, je pense qu'on va le voir émerger. Quand même d'une façon qu'on pourrait répéter, en tout cas dans nos cultures qui sont un peu différentes, mais pas tant que ça, matérialiste, etc.
Bon, c'est clair qu'on est confronté à un problème difficile, un défi difficile qui est la montée de l'individualisme. Cette montée de l'individualisme, elle ne tombe pas, ne sort pas de nulle part non plus. Elle est le résultat 40 ans maintenant de politiques d'austérité néolibérale qui ont délibérément favorisé les mécanismes individuels, qui ont cassé les solidarités ou essayé de les affaiblir, notamment les solidarités du monde du travail,
C'est
mais
ça.
pas que, aussi les solidarités d'habitants pour la défense de leur cadre de vie contre les dégradations et les pollutions diverses. Voilà, donc il faut reconstruire. Mais il me semble qu'il y a tout de même pas mal de possibilités pour le faire. Si on prend de l'autre côté de la frontière, tu vas me dire que c'est plus facile de prendre des exemples en France, mais tout ce qui a été fait à partir du combat de Notre-Dame-des-Landes contre la construction de l'aéroport, qui est un combat qui s'est étalé sur
30 ans, je crois.
40 ou près de 50 ans. Je crois que les premiers projets de construction de l'aéroport datent du début des années 60, si je me souviens bien. Donc c'est déjà une histoire longue. Mais donc là, on a vu. C'est plutôt un message d'espoir qui ressort de toute cette histoire. On a vu quoi? Des riverains qui, des futurs riverains, de potentiels riverains qui disent non, ça, on n'en veut pas. Des agriculteurs locaux, des petits agriculteurs qui ne sont pas dans l'agro-business, qui disent ça, on n'en veut pas. Des zadistes qui viennent, des jeunes radicalisés qui viennent s'installer sur le terrain, qui nouent des relations avec riverains et agriculteurs. Et puis, qui ont l'intelligence, ce collectif a eu l'intelligence de transformer cet enjeu territorial local en une question de politique nationale. Et à partir du moment où ils ont été capables de faire ça, ils ont été capables, y compris, d'avoir le soutien, un soutien très large de la gauche ou des organisations environnementales en général, mais aussi, plus spectaculaire, un soutien de secteurs du mouvement syndical. Le plus extraordinaire, c'est que la CGT de Vinci, qui était censée construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, s'est prononcée en soutien à la lutte contre celui-ci. Et l'a fait non pas seulement du bout des lèvres comme ça, mais l'a fait pratiquement. La CGT de Vinci était présente aux manifestations, notamment la marche des bâtons, là, contre la tentative d'expulsion des zadistes par les forces de police suréquipées du gouvernement Macron. Donc voilà, et ça se prolonge dans le combat des soulèvements de la terre, qui est directement issu de cette expérience de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, combat contre les mégabassines, combat contre la bétonisation des territoires, combat contre l'agrobusiness maraîcher, etc., etc., avec chaque fois des tentatives de nouer des liens, des solidarités avec des parties du mouvement ouvrier, parce que là aussi, je trouve les choses évoluent et on n'est plus dans une situation où les défenseurs de l'environnement peuvent se permettre de penser qu'il est possible de contourner le mouvement ouvrier pour et les
De moins
travailleurs
en
et les
moins.
travailleuses pour obtenir satisfaction. Il faut, en général, il y a une entreprise qui pollue derrière les quatre pollutions et il faut tout de même nouer langue avec les travailleurs et les travailleuses qui sont occupés pour essayer de les conscientiser et d'avoir leur au moins un dialogue avec eux sur le combat, etc. C'est très compliqué, mais c'est le seul chemin qui permet réalistement d'envisager une issue
Oui.
positive, quoi.
Et
Et à travers tout ça, recréer du lien, recréer du commun, recréer du collectif, recréer une conscience sociale plus
Ouais,
large
c'est ça.
que l'arrière de son jardin,
C'est
quoi.
ça. Et je suis de toutes ces luttes en soutien. J'ai moi-même créé plein de collectifs, artisans du commun, épiceries collaboratives et autres. Donc, ça veut dire que je garde toute mon énergie pour ça, pour faire. Ceci étant dit, et toi, tu as écrit un livre qui s'appelle Trop tard pour être pessimiste. Même si moi, ça ne mine pas, ce que tu appelles de tes voeux là, ou que moi aussi d'ailleurs, hein, ce changement. Je vois toujours des mouvements qui sont capables d'arrêter certaines choses. Notre-Dame-des-Landes, d'arrêter l'aéroport, d'autres, de construire des trucs géants et destructeurs. J'ai encore peu d'exemples de retour en arrière, de réellement de changement de l'existence. C'est-à-dire que tout d'un coup, la machine, elle rencontre un caillou, elle tape dedans, finalement, elle n'y arrive pas, puis elle le contourne ou elle prend une diagonale pour faire une merde plus loin, si tu veux. Puis on estime que c'est une victoire, et c'en est une. Mais objectivement, moi, je suis extrêmement pessimiste. Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'effondrement à ce jour. Ceci étant dit, ça n'enlève aucunement mes moyens, mes envies et mon engagement. J'ai l'impression que c'est simplement un peu plus réaliste. Mais peut-être, tu m'as donné des exemples tout à l'heure, tu as écrit un livre là-dessus. Contredis-moi.
Mais c'est pas parce que mon bouquin s'intitule Trop tard pour être pessimiste que je suis optimiste. Non, je crois que c'est important de le souligner.
Oui,
Il y a plein de raisons d'être extrêmement pessimiste aujourd'hui, hein. La catastrophe sociale continue à s'approfondir. Elle débouche sur des manifestations de barbarie. Il y a celles qu'on a citées au début de l'entretien, Gaza et l'Ukraine, mais
oui.
il y en a d'autres, les Rohingyas et la dictature au Myanmar et le sort des Ouïghours, etc., etc. Donc le monde est en train de tourner en cacahuète quelque part, et donc on a beaucoup de raisons de voir l'avenir en noir. Mais je suis absolument convaincu, c'est pour ça le titre de ce bouquin, que être pessimiste ne sert à rien. Ne sert à rien. Il ne faut pas être d'un optimisme béat. Ben, on en revient toujours à la formule fameuse de Gramsci. Elle reste juste en toutes circonstances. Avoir l'optimisme de la volonté et le combiner avec le pessimisme de la raison. Ou comme disait Bertolt Brecht, c'est peut-être encore plus utile, encore plus fécond. Celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne lutte pas est certain d'avoir déjà perdu. Hein? Donc voilà,
Absolument.
il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative que de s'accrocher à l'espérance qu'il est possible de sortir de cette spirale qui nous emmène tout droit, j'en suis absolument convaincu, vers une barbarie au moins aussi grande, possiblement aussi profonde, aussi horrible que ce qu'on a connu au XXe siècle. Hein? Il n'y a pas d'alternative que de s'accrocher à l'espérance qu'on peut arrêter cette machine et qu'on peut renverser le cours de l'histoire. Le balancier finit toujours par revenir dans l'autre sens,
Absolument.
hein, à un moment ou l'autre. Hein. Et donc, c'est la raison pour laquelle le dernier bouquin que j'ai sorti, qui est un bouquin d'entretien intitulé Écologie, lutte sociale et révolution, aux éditions La Dispute. Il est consacré essentiellement aux questions de stratégie. Il est consacré essentiellement à la question de la convergence des luttes, de la manière dont on peut opérer, dont on peut espérer ouvrir des brèches dans le productivisme en général et en particulier dans la soumission du mouvement ouvrier, des travailleurs, des travailleuses au productivisme capitaliste. Le bouquin est centré essentiellement là-dessus.
Très, très intéressant. Oui, pessimiste, moi, c'est pas un état, d'ailleurs. C'est plutôt que je crois pas que la situation va s'améliorer avant l'effondrement. Et là où je vois beaucoup d'optimisme, c'est dans la résistance, si tu veux. Mais même une personne qui résiste, je trouve ça très beau en soi. Les gilets jaunes d'abord, les Palestiniens maintenant, ils sont en train de libérer d'une certaine manière le monde entier de quelque chose. Parce que je pense que grâce à eux et à leur combat, des milliers de jeunes, notamment américains, se prennent conscience de la société totalitariste dans lequel ils vivent, croyant eux-mêmes qu'ils sont la nation avec la valeur de la liberté et la démocratie la plus avancée au monde. Du coup, là, je vois beaucoup d'optimisme si tu veux, la capacité de résister qui, en soi, peu importe où il va, est beau. Voilà, donc moi, je ne suis pas du tout abattu à ça.
Mais donc, je trouve, tu parlais des gilets jaunes, je trouve que c'est un remarquable exemple qui pousse à un optimisme modéré. Parce que l'événement fondateur, c'est quoi? C'est la
La
taxe sur les
taxe
carbones, sur les
les carburants.
combustibles, les carburants, décidée par Macron. Une taxe antisociale qui touche en particulier des travailleurs, des travailleuses à petits revenus, mais qui dépendent de leur voiture pour aller au boulot parce qu'ils habitent dans les périphéries, des grandes villes, qui sont infirmières ou infirmiers à domicile ou livreurs ou des choses comme ça. Donc, des couches du monde du travail qui sont peu organisées traditionnellement, syndicalement ou autrement. Et donc, au moment où le mouvement des Gilets jaunes éclate, je me souviens que beaucoup de gens de gauche avaient été assez inquiets du tour politique, idéologique que prendrait ce mouvement. Se disaient, oh là là, ça va être un mouvement pour mon auto, ma liberté, et donc ça va être récupéré par l'extrême droite ou par la droite extrême. Et ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Oui, il y a eu une présence et une influence des opinions d'extrême droite et des porte-paroles d'extrême droite du mouvement des Gilets jaunes. Oui, on ne peut pas le nier, mais il y a eu une évolution qui était plutôt une évolution de type gauche démocratique, convergence des luttes, avec des phénomènes tout à fait surprenants, où on a vu à Toulouse et dans d'autres villes une jonction entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement des femmes contre les violences sexistes et sexuelles. Où on a vu une jonction à Paris et dans d'autres villes entre des manifestations des Gilets jaunes et des manifestations des jeunes pour le climat.
Oui.
Donc tout ça était. Et tout ça s'est concrétisé dans ce slogan magnifique qui a été lancé à cette époque-là. Fin du monde, fin du mois, même
Mais
combat. Ça, c'est vraiment l'expression concrète d'une prise de conscience du fait que crise sociale, crise écologique, c'est une seule et même crise et qu'elle nécessite une réponse commune qui est une réponse potentiellement anticapitaliste. Donc voilà, il y a des raisons d'espérer quand on regarde le cours des mobilisations sociales concrètes. Alors tu peux encore dire, oui, ok, le mouvement a gagné, la taxe sur le carburant, elle n'est pas passée, mais le gouvernement et les pouvoirs en général reviennent à la charge par d'autres biais, c'est juste. Ben ça, la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut s'emparer du pouvoir politique, qu'il faut avoir une stratégie qui pointe la prise du pouvoir politique. Pas pour occuper le pouvoir tel qu'il est, mais pour démanteler le pouvoir existant qui fait partie, qui est une machine de la domination par la classe capitaliste, et y substituer un autre type de pouvoir au service de la satisfaction des besoins sociaux et écologiques. Alors, tu vas me dire, c'est facile à dire, mais que peut-on dire d'autre? C'est la seule perspective
Bien sûr.
qui soit réaliste, qui soit crédible. Sinon, on fait comment? La multiplication d'initiatives locales, de coopératives, de magasins partagés, de jardins partagés. Croire qu'il va y avoir une contagion de ce genre d'initiatives et que ça va aboutir au renversement du capitalisme productiviste, ça c'est une illusion encore plus grande
Encore
que
plus
de
grand.
croire qu'il serait possible de s'emparer du pouvoir politique.
Oui. Non, moi je voyais ça plutôt comme tisser un espèce de réseau d'alternatives viables ou autrement viables. Et quand ça s'effondrera, eh bien, on pourrait se raccrocher à des choses déjà éprouvées. Ouais, c'est
Mais
plutôt.
qu'est-ce qui va s'effondrer? Moi,
Alors
je ne crois
justement, ça,
pas à
c'est
cette
là. On va
histoire-là.
en parler. Avant ça, je voulais te poser la question du coup puisque tu as abordé ça, de la réponse politique des partis institutionnels existants qui pourraient ou pas amener des réponses. La gauche radicale, qui me semble être la seule qui commencerait à parler de quelque chose qui irait dans ton sens, pour moi, elle est trop contre et elle est pas assez. Si tu veux, moi, je suis pour le grand soir, mais si c'est pour le remplacer par les mêmes. Début, où, comme Einstein disait, on ne peut pas résoudre un problème sur le même niveau de pensée ou avec
Je connais la
la même
citation.
réflexion
Ouais.
que voilà, tu la
Qu'est-ce qui a
connais.
causé le
Ouais,
problème?
exactement.
Ouais.
Et bien, moi, je n'entends pas de aucun, alors là, je suis vraiment formel, aucun parti politique n'arrive à du coup amener une réponse crédible à cette citation de Einstein. Avec quel niveau de pensée, avec quelle valeur, avec quelle innovation vous allez proposer quelque chose de nouveau? Et là, je n'entends rien. Je ne sais pas,
Alors,
peut-être que tu entends.
pour ton information, moi, je ne suis pas vierge politiquement, hein. Je suis un militant
Je
politique.
sais
Je
bien,
suis membre
mais partisan, c'était plutôt ça, parce qu'on fait un amalgame entre la politique et le parti. Et moi, je parlais de la politique institutionnelle, c'est-à-dire les partis colorés,
Je
c'est-à-dire,
pense qu'il n'y a rien
etc.,
à
etc.
attendre de la politique institutionnelle. Je pense qu'il n'y a
Merci.
strictement rien à en attendre. La social-démocratie n'est même plus une force de réforme ou de proposition. Si c'était ça, ce serait encore un moindre mal, mais elle n'est même plus ça. Elle est une social-démocratie gestionnaire du néolibéralisme, donc c'est point à la ligne,
Du capital.
et du capital. Les Verts, kif-kif.
Les verts
Mais
aussi.
là, la messe n'est peut-être pas complètement dite, hein. Il y a déjà eu certains reclassements dans les partis verts, surtout en France, hein, de scission avec la droite qui est partie, Vecter, etc., il y a quelques années. Mais enfin, bon, en gros, ils sont dans l'accompagnement de la gestion néolibérale. Ils n'ont pas une vision émancipatrice de classe au service des opprimés et des opprimés, etc. Donc je pense qu'il faut reconstruire à partir des luttes, à partir des mouvements sociaux, et que là, ben, malgré tout, les organisations de la gauche radicale ont un rôle à jouer et ont des responsabilités à prendre en dépit de leurs échecs dont elles devraient tirer les leçons. Donc moi, je suis membre d'un courant politique. Hein. Je ne m'exprime pas en son nom dans tout ce que je dis, mais j'y suis fidèle. C'est un petit courant, qui, on dirait plutôt un réseau modeste, qui s'appelle un peu pompeusement la quatrième internationale, c'est que certains appellent le trotskisme. Je ne me considère pas personnellement comme trotskiste, mais bon, c'est pour situer auprès des auditeurs. Donc je suis membre de ça. Et je trouve que dans ce courant-là, il y a un véritable effort de rénovation idéologique, de rénovation stratégique, à partir de la crise écologique en particulier, mais aussi à partir de la question féministe, de la question des lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, etc. Donc il y a une tentative de faire apparaître tout ce qui lie domination de la nature, domination du monde du travail, domination des femmes par les hommes, discrimination des gays, lesbiennes, et de lier tout ça au fonctionnement et racisme institutionnel, de lier tout ça au capitalisme en tant que système impérialiste, colonialiste, machiste, patriarcal. Donc, il y a une tentative, et ben là, maintenant, elle est en train, c'est peut-être un scoop, elle est en train d'aboutir à la rédaction d'un projet de manifeste dans lequel j'ai été fort impliqué, personnellement, un manifeste pour la rupture avec la croissance capitaliste et pour une alternative éco-socialiste, internationaliste, féministe et antiraciste. Et voilà, alors on veut dire c'est du papier, mais les idées sont parfois très importantes quand il s'agit de reconstituer quelque chose. On se souvient, on sait tous la place qu'a... le rôle irremplaçable qu'a rempli la rédaction du manifeste communiste par Marx et Engels au XIXe siècle. Donc, je n'ambitionne pas que notre petit manifeste se situera au même niveau, mais donc ça veut dire que les écrits peuvent être importants, en particulier dans une période où il y a un désarroi et une nécessité de repositionner les éléments d'une analyse, de les réarticuler. Les écrits peuvent être importants pour rassembler des militantes, des militants qui sont impliqués dans les mouvements sociaux et qui vont trouver dans ces écrits, ou pas, mais enfin j'espère que oui, des suggestions, des idées à mettre en avant, à mettre en œuvre dans leur lutte.
C'est un peu l'espoir. Après, l'éco-socialisme, il y a des mots comme ça qui ont été un peu dévoués de leur sens et qui sont lourds, et je pense que le mot socialiste... socialisme, en tout cas moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire quand j'entends les socialistes de ma région par exemple.
Je peux imaginer,
c'est pas très clair si tu veux. Et une autre institution qui est très écoutée et dont on parle beaucoup, en tout cas dans les médias, mais de nouveau moins depuis toutes ces crises là, c'est les COP, le GIEC et autres, et il me semble que tu as un peu travaillé sur les réflexions des directions dont seraient à peu près d'accord de prendre les gouvernements principaux de ce monde. Qu'est-il à dire sur ces plans de préservation de la planète et autres qui émanent de ces institutions?
Mais il faut bien voir ce qu'est la nature du GIEC et ce qu'est la nature... de l'IPBES, c'est-à-dire ce qu'on appelle le GIEC de la biodiversité, hein, qui est construit sur le même schéma.
C'est-à-dire que c'est des scientifiques qui viennent un peu de tous les pays, qui se mettent ensemble et puis qui travaillent?
Oui,
c'est ça,
mais GIEC veut dire groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'adjectif intergouvernemental est clé là-dedans. À l'origine, quand le GIEC a été fondé, il y avait deux choix. Ou bien on créait une agence des Nations Unies sur le climat, un peu sur le modèle de le United Nations Environment Programme, le programme des Nations Unies pour l'environnement, ou bien on créait autre chose. Et ce sont les néolibéraux à l'époque, Thatcher et Reagan, qui se sont opposés à la création d'une agence parce que, pour eux, le programme des Nations Unies pour l'environnement était déjà trop à gauche, trop potentiellement critique du système capitaliste et de sa logique de profit. C'était déjà trop pour eux. Donc, ils ne voulaient pas rééditer sur la question du climat, cette expérience selon eux négative. Et derrière ça, il y avait leur compréhension quand même, ils ne sont pas tout à fait stupides ces gens-là, leur compréhension du potentiel extrêmement critique de la question climatique par rapport aux enjeux de société capitaliste et à la logique capitaliste. C'était ça la raison. Et donc, ce qui en est sorti, c'est l'idée d'un groupe d'experts intergouvernemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les scientifiques qui remplissent les différents postes, présidence, vice-présidence, présidence et vice-présidence des groupes de travail, parce qu'il y a trois groupes de travail spécifiques, tout ça, tous ces gens-là sont nommés par les représentants des États signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat. Ils sont plus de 100, enfin presque tous les États, à peu près 190, je ne sais pas le chiffre exact, au cours d'assemblées générales où c'est les représentants politiques qui décident, alors avec une interaction avec les scientifiques, mais bon. Et ça, les conséquences sont très importantes pour les conclusions des travaux du GIEC. D'abord, le GIEC ne fait pas d'études, le GIEC ne fait que compiler des recherches existantes. Il n'y a pas de travaux du GIEC, de recherche du GIEC. Le GIEC analyse toutes les publications scientifiques relatives à son objet et écrit des synthèses. Ces synthèses sont rédigées par des scientifiques qui, entre parenthèses, ça vaut la peine de le dire, travaillent à titre bénévole, hein, en plus de leur boulot dans tel ou tel centre de recherche ou université. Donc, c'est quand même pas rien. Et ces rapports-là, des scientifiques sont entièrement sous leur responsabilité. Il n'y a pas d'interférence politique directe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interférence parce que les scientifiques ont aussi une idéologie et la majorité d'entre eux ne sont pas antiproductivistes et anticapitalistes. OK, mais c'est tout de même un travail scientifique qui répond à des critères scientifiques rigoureux, la peer review, etc.
Mais ils sont choisis, tu disais quand même, ils sont choisis.
Oui, ils sont choisis, mais ils sont choisis sur base de compétences scientifiques et sur base de propositions faites par d'autres scientifiques de leur domaine. Donc, c'est quand même un travail rigoureux. Il n'est pas exempt de tout reproche et de toute idéologie sous-jacente, mais c'est un travail relativement, enfin, très rigoureux même. Mais autre chose est ce qu'on appelle les résumés pour les décideurs, parce que les rapports du GIEC, ben, c'est des trucs qui font... le rapport de chaque groupe de travail fait plus de 2000 pages, donc il y a trois groupes de travail, ça fait à peu près 5000, 6000 pages pour l'ensemble. C'est extrêmement ardu. Et de ça... on rédige, pour chaque rapport de groupe de travail, est rédigé un résumé à l'intention des décideurs. Et puis, est rédigé un rapport de synthèse qui est un résumé du rapport de synthèse pour les décideurs. Et là interviennent les représentants des pouvoirs politiques. Et là, les biais politiques ou les préoccupations des États en concurrence l'un l'autre sur les questions géostratégiques ou sur l'accès aux ressources et aux matières premières, les préoccupations sont absolument transparentes. Et ces rapports-là sont... Ben, le problème, c'est que ceux-là, des gens les lisent, au moins des faiseurs d'opinion les lisent. Les journalistes ne se basent pas sur les rapports intégraux, ils se basent sur les résumés pour les décideurs qui font 50 ou 60 pages chaque fois, c'est plus accessible. Et là, toute une série de choses sont éliminées parce que les politiques n'en veulent pas. Par exemple, dans le dernier rapport de synthèse, aurait dû être repris l'évaluation des pourcentages de réduction de la combustion des combustibles fossiles compatibles avec le respect du degré et demi maximum. Donc, il y avait, pour l'échéance 2050, tel pourcentage de réduction du charbon, c'était 95% de mémoire, autant pour le pétrole, autant pour le gaz. Ce passage qui est clé, parce que il porte sur la consommation, donc sur l'exploitation, sur l'usage des combustibles fossiles. Ce passage ne se retrouve pas dans le rapport de synthèse. Et il a été remplacé par une formule qui amalgame qui met un trait d'égalité entre les formules de géo-ingénierie ou de capture-séquestration du carbone et l'usage de combustibles décarbonés, alors que ce sont deux choses complètement différentes. C'est scientifiquement incorrect d'affirmer que la capture-séquestration du carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles représenterait une source d'énergie décarbonée. Enfin, c'est complètement absurde. Et ça, c'est les gouvernements.
Oui, c'est ça. Il y a quand même des mesures qui iraient dans le bon sens ou pour l'instant, il n'y a, à ton avis, aucun levier qui a été activé pour nous, entre guillemets, comme mon ami Jacques Dubosc a dit, faire tourner le paquebot avant qu'il se prenne l'iceberg.
Ah, ben attention, dans le rapport du GIEC, dans le rapport intégral, il y a des choses extrêmement intéressantes et qui montrent que les lignes bougent. Et notamment...
Oui, alors dans les rapports, oui.
Oui. Mais et même dans les résumés.
Ok.
Même dans les résumés, le terme sobriété est apparu pour la première fois dans le rapport, le sixième rapport d'évaluation du GIEC, et il figure dans le résumé pour les décideurs. Et il y a une définition qui est donnée de la sobriété, qui est une définition socialement absolument excellente, qui privilégie la satisfaction des besoins sociaux légitimes des populations et l'égalité sociale. C'est remarquable comme définition. Et ça figure dans le résumé. Mais donc, il y a des choses qui bougent tout de même. On n'est pas...
Oui.
Il y a des choses qui bougent à l'intérieur même de la communauté scientifique, parce que cette contradiction entre le croissancisme ou le productivisme capitaliste d'une part et d'autre part, les contraintes physiques, chimiques, biologiques de la satisfaction de la stabilisation du système Terre, cette contradiction, elle n'échappe pas à un certain nombre de scientifiques. Et donc, on voit émerger tout un courant de chercheuses et de chercheurs au niveau international qui se prononcent pour la décroissance. Dans les rapports du GIEC, il y a plusieurs dizaines d'occurrences du terme décroissance dans le rapport intégral du GIEC. Et ce sont des chercheurs qui... Il y a une évolution, si on veut, dans cette école de la décroissance, si on voit ce qu'elle était au 19e siècle, au 20e siècle, pardon. Il y avait tout de même un côté, je dirais, une décroissance punitive vis-à-vis des populations. Hein, vous vivez au-dessus de vos moyens, on va vous... Aujourd'hui, c'est très différent. C'est ce que j'appellerais un courant de la décroissance juste, décroissance sociale qui privilégie l'égalité et la lutte contre les super-riches et contre le grand capital. C'est tout à fait spectaculaire. Et il y en a un certain nombre en Suisse, d'ailleurs, des gens comme ça, ou en Belgique, ou en France.
Bien sûr. On en a eu quelques-uns ici. Ce qui implique... Pour moi, de facto, une réflexion aussi sur qui fait quoi d'abord, parce que les relations nord-sud, elles sont importantes, et la décroissance, oui, mais pour le nord. Et puis, sans donner des leçons au sud, parce qu'eux, ils vont vouloir. Et c'est pour ça qu'on reviendra tout à l'heure sur ce sujet-là, mais en fait, moi, je ne suis pas d'accord sur ton analyse sur la Russie. Mais on reviendra là-dessus après. Tu as écrit notamment sur Trump. Tu as écrit un livre sur Trump et les États-Unis qui sont le fer de lance de la puissance économique capitaliste mondiale. Et qu'est-ce que...
Avec la Chine aujourd'hui, qui est numéro 2.
Oui,
tout à fait. Qui est une économie capitaliste. C'est un capitalisme un peu particulier. C'est une puissance capitaliste qui se construit sur le modèle de ce qu'on appelait au siècle dernier les tigres asiatiques, hein, la Corée du Sud, d'autres pays qui, par une intervention de l'État, une régulation par l'État, ont constitué un capitalisme extrêmement compétitif. Et la Chine reproduit ça à la puissance 10 aujourd'hui, oui, avec un très grand succès. Mais c'est une puissance capitaliste qui est en train d'émerger, qui a émergé et qui mène une politique impérialiste. Il n'y a absolument aucun doute.
Économique
et politique. Parce que
pas militaire, par contre.
On verra. Le programme de réarmement, notamment en matière de marine, de marine de guerre, est un programme extrêmement ambitieux. Ils viennent d'inaugurer, ils sont en train de tester leur troisième sous-marin. C'est un sous-marin de 80 000 tonnes, je crois, ou je ne sais plus comment on dit, ou tonneaux, je ne sais plus comment on dit. Enfin, un très grand sous-marin, un porte-avions extrêmement moderne qui est au moins au niveau des porte-avions les plus performants de l'impérialisme américain.
Oui.
Donc, il y a impérialisme, mais il n'y a pas d'impérialisme économique sans impérialisme militaire.
Ça, c'est non, plus, il va de pair.
Il faut protéger les investissements à l'étranger, il faut protéger les supply chains. Hein, pour la
Bien
Chine,
sûr.
c'est absolument vital. Et pour ça, on ne peut pas se contenter, on ne peut pas s'en remettre uniquement à des manœuvres diplomatiques ou des choses. Non, il faut être capable d'agiter la menace militaire.
Tu dis pour ces pays-là?
Oui.
Ou contre ces pays-là?
Il faut protéger les supply chains,
ah
les
ouais,
chaînes
ça,
d'approvisionnement
okay.
des ressources et des matières premières.
Parce que,
Et la Chine le fait.
Oui, bien
La
sûr,
Chine le fait.
mais là, il faudrait voir qui est le premier acheteur des produits chinois. C'est-à-dire que, je veux dire, l'émanence de ce pouvoir, cette force chinoise, c'est parce que nous, les Occidentaux, on voulait acheter des trucs pas chers pour avoir du confort, et du coup, ben, les giga-usines, on les a mis là-bas, et puis finalement, ça a aussi pu
Est-ce
faire
que c'est
quelque chose.
notre enfin, de,
Donc on a
je,
aussi
moi,
une
je suis pas prêt,
responsabilité
je suis pas
dans...
prêt à assumer, à dire que les consommateurs ici, les travailleurs ici qui veulent avoir un smartphone, sont responsables du développement du capitalisme chinois. Ce sont les capitalistes occidentaux, américains, européens, qui ont été investir massivement en Chine pour profiter des
Exactement, voilà,
avantages
c'est ça.
donnés par
C'est
le
ça,
gouvernement
bien
chinois.
sûr.
Et parmi ces avantages, il y a le fait que les coûts salariaux sont extrêmement bas, qu'il n'y a pas de droit d'organisation du monde du travail,
c'est ça.
qu'on a une société qui est
Oui.
une société étroitement contrôlée du point de vue policier et avec des technologies qui sont des technologies à la Orwell. Hein,
Oui.
donc,
Mais moi,
c'est de ça qu'il
j'ai du
s'agit.
mal à critiquer un pays qui, finalement, ne fait que suivre le modèle qu'on leur donne de force. S'il faut, et on a vu avec les pays qui refusaient le capitalisme, comment on les a renversés, comment on les a maltraités, encore maintenant, certains pays d'Amérique latine ou d'autres, même si à peu près tout le monde dans le monde entier est rentré dans ce système capitaliste, j'ai rien à dire avec ça, mais j'ai l'impression, enfin pour moi, il y a quand même une priorité d'action. Et c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vois pas de base militaire chinoise autour de la Suisse, tu vois? Alors que je vois 800 à 900 bases militaires autour de la Chine, autour de la
Oui,
Russie,
mais.
autour de tout ça. Donc la puissance militaire actuelle,
Oui.
eh ben, c'est ni la Russie ni la Chine qui l'ont.
La principale puissance militaire impérialiste aujourd'hui, c'est clairement l'impérialisme américain. Ça, c'est clair. Mais sa puissance militaire repose in fine sur sa puissance économique,
Qui est en train de couler aussi.
qui est en train, peut-être pas de couler, mais qui est menacée très sérieusement par la concurrence, du capitalisme chinois montant. Mais donc, je veux dire, moi, en tant que militant, Oui, comme militant, employons le terme, en tant que militant anticapitaliste, je suis attaché à un principe qui est le principe de l'internationalisme. Et pour moi, l'internationalisme, c'est prolétaires du monde entier, unissez-vous. C'est pas regroupons-nous derrière les pays qui sont en conflit aujourd'hui avec l'impérialisme dominant, ça c'est autre chose, mais qui sont eux-mêmes des pays impérialistes. Pour moi, ça c'est pas de l'anti-impérialisme ou de l'internationalisme. Donc je pense que l'internationalisme aujourd'hui, c'est dire From Ukraine to Palestine, occupation is a crime. Tu vois, donc de l'Ukraine à la Palestine, l'occupation est un crime. Je pense que l'internationalisme, c'est être aussi solidaire des travailleurs et des travailleuses au Brésil ou en Afrique du Sud ou en Argentine face à la dictature autofasciste que Milei met en place aujourd'hui, que d'être solidaire du peuple ouïghour attaqué dans ses droits nationaux par le gouvernement chinois grand rang. Tu vois, donc pour moi, c'est la solidarité avec les peuples en lutte, avec les exploités, les opprimés, où qu'ils se trouvent et quel que soit le gouvernement qui prétend les représenter.
Oui.
Pour moi, c'est ça, l'internationalisme.
Pour moi aussi, mais à condition d'étudier l'histoire qui a fait dégénérer les choses. C'est-à-dire que je ne conteste pas qu'il y a de l'autoritarisme et peut-être certaines formes d'impérialisme en Chine ou en Russie qui ont finalement adopté, parce qu'on les a contraints, le modèle impérialiste, consumériste, capitaliste ici. Et si tu veux... Moi, quand je regarde, je n'ai pas la même lecture que toi, parce que je ne pense pas du tout que les Russes, ils ont envahi l'Ukraine pour leur terre. D'ailleurs, le général de l'OTAN a reconnu que Poutine a envoyé une missive en disant Nos conditions, c'est que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Et si vous acceptez que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, on peut signer une paix. Et il a dit, nous n'allions quand même pas accepter ces conditions. Donc en gros, la Russie demandait que l'Ukraine soit neutre, ce qu'on peut comprendre, parce que quand on se bat en grande puissance, moi je suis contre les grandes puissances, je serais pour l'abolition de toutes les grandes
Ah
puissances.
ben
Mais
alors,
si on en accepte,
alors.
si ça, on en accepte une et
Oui.
que l'autre réagit, on peut pas se plaindre là. On doit se plaindre là.
Non, mais
D'abord, c'est pour ça que j'ai pas cette même idée-là, même
non,
si je
là,
suis
nous ne
d'accord
sommes.
sur la solidarité des travailleurs du monde entier, la libération vers une vraie démocratie, mais elle existe nulle part. Et pour moi, il faut vraiment aller comprendre ce qui a poussé à la réaction. Et en l'occurrence, je sais pas si tu sais, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des accords et les Russes, ils ont dit, vous approchez pas d'un mètre avec votre alliance. Elle a même voulu être dans l'OTAN, la Russie, donc elle
Oui,
cherchait la
oui,
paix.
oui.
Et il s'avère que maintenant l'OTAN est à la frontière de la Russie. Donc si t'es je suis désolé, mais c'est comme la Palestine. Si tu agis comme ça, il n'y a pas d'autre finalité possible que le soulèvement et la guerre. Et ces gens nous mènent à la guerre.
Bon,
C'est
nous ne
pour ça que ma
sommes
lecture est
certainement
différente.
pas d'accord là-dessus. Tu disais, si la Russie, la Chine sont devenues des puissances capitalistes, c'est parce qu'on les a forcées à rallier ce système. Je suis en désaccord complet avec ça. Je pense que la Russie, elle a elle-même creusé le sillon pour le rétablissement du capitalisme par une politique et un système social-économique aberrant, absurde, complètement bureaucratique, qui ne produisait pas, dans lequel il n'y avait plus de capitalisme. En Russie, on peut dire qu'il n'y avait plus de capitalisme, mais il y avait une couche de bureaucrates qui n'avaient qu'une chose en tête, c'est devenir capitaliste le plus vite possible pour pouvoir transmettre leurs privilèges et leurs fortunes à leurs enfants, ce que le système en place ne leur permettait pas de faire. Et c'est ça la différence entre la bureaucratie soviétique qui existait et la couche capitaliste qui est au pouvoir aujourd'hui. Ils se sont appropriés la propriété d'États bureaucratisés à leur profit. Et voilà, mais la transformation à faire socialement pour eux était relativement minime. Ils étaient déjà les privilégiés et les seuls privilégiés de cette société avec un niveau de vie plusieurs dizaines de fois supérieur à celui des gens ordinaires.
Ok. Bon, de toute façon, je ne suis pas un expert sur cette question. Il y en a souvent qui viennent ici. Jacques Bourg en est un, on l'aura encore la semaine prochaine. Je voulais revenir sur peut-être la critique que tu fais de la collapsologie aussi, peut-être.
Ouais.
Quelle serait-elle? Tu dis parce que finalement, c'est pessimiste de penser collapsologie puis que ça nous mène à rien
Non, c'est
ou
fataliste.
fataliste.
C'est fataliste. C'est ça mon problème. C'est que ils disent qu'il n'y a rien à faire, en fait. La seule chose qu'on peut faire, c'est construire des petites collectivités rurales pour préparer l'après-effondrement. Donc ils abdiquent ou ils capitulent sur le fait que l'effondrement est inévitable. Et contre ça, je m'insurge.
Oui,
Je pense
je suis d'accord.
il est toujours possible de l'éviter, qu'il faut se battre pour l'éviter, et que cette idée des petites collectivités en résistance qui vont reconstituer le territoire, elle est en plus reconstituer une autre société, elle est en plus légèrement suspecte parce qu'elle flirte avec des idées malthusiennes, comme quoi on est trop sur Terre et que donc
Oui, c'est vrai.
l'effondrement, ça va aussi être un effondrement de la population parce qu'on est trop nombreux. Voilà. Ça
Oui.
me dérange profondément.
D'ailleurs, j'accueillerai un survivaliste prochainement, juste pour essayer un petit peu de comprendre la logique, parce qu'à mon avis, c'est. Bah, déjà, c'est. Même si sur la collapsologie, je peux entendre quelque chose, après, s'équiper son bunker et son fusil pour se défendre, ça, c'est vraiment créer une dystopie auquel je ne veux autrement pas participer.
Il y a une excellente pièce de théâtre
Ouais.
qui a été créée en Belgique. C'est un one-man show qui s'appelle La Maison Renard. Et ça, c'est une critique opicrate du survivalisme, mais génialement faite par un acteur dont j'ai oublié le nom, qui a conçu la pièce. Et ça démarre vraiment sotto voce, de
Oui.
façon assez simplement comique, et ça termine dans la dystopie
Oh,
totale
total, quoi.
où on s'arme et on tue les adversaires. Enfin bon, c'est extraordinaire et très drôle.
Oui, et les travers
La
de
Maison Renard, je
la
recommande.
maison renard, je note et je regarderai ça. Et du coup, moi, c'est vrai que Une des réponses, c'est la biodiversité. Comme moi, je suis un écologiste à la base, hein. Je suis militant écologiste. Bon, après, je suis sorti du parti parce que je trouve que la petite fenêtre partisane est trop restreinte pour créer quoi que ce soit, et surtout pour fédérer. Mais la diversité, c'est ça que j'appelle au niveau micro et macro. Et moi, je vois quand même les BRICS comme étant un contre-pouvoir pour la dominante, même si elle est peut-être similaire elle-même, hein, mais la dominante du capitalisme occidental, et que si on contre l'occidentalisme occidental par d'autres modèles, mais qui se rapprochent, ça forcera peut-être à l'Occident de comprendre qu'elle ne pourrait pas gagner, elle ne peut plus gagner à ce jeu, et que du coup, elle doit elle-même créer autre chose.
Je pense que ça,
Tu vois?
c'est de la spéculation et c'est une spéculation dangereuse. J'attire ton attention sur le fait que dans les années 30, il y a des gens qui pensaient que l'Allemagne avait des raisons légitimes de se réarmer, de constituer le régime qu'Hitler était en train de constituer, parce que le traité de Versailles était injuste. Et effectivement, il était injuste. Et effectivement, ce traité est une des causes qui a permis, avec la Grande Dépression qui a permis le triomphe d'Hitler et qui est à la base de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça ne permettait pas de dire que le combat d'Hitler était légitime. Enfin, ça, c'est complètement absurde.
Oui,
Et il
évidemment,
y a
c'est ce que
certaines
j'ai dit.
sim y a, mais je sais bien que c'est pas ce que tu dis, mais il y a certaines similitudes entre le discours de Poutine aujourd'hui et le discours d'Hitler dans les années 30 et 40, hein. Je te signale notamment l'interview récente que Poutine a donnée à ce journaliste
Tucker
américain.
Carlson.
Voilà Tucker Carlson, dans lequel il évoque le fait, il affirme que c'est la Pologne, que c'est les Polonais qui étaient responsables de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont refusé d'accéder à la demande, somme toute légitime, de Hitler concernant le couloir de Danzig
Oui, il a
vers
parlé
là.
pendant 3 heures et puis là, tu ressors, bah,
Oui.
on voit, tu ressors la seule erreur historique qu'il a fait, évidemment par souci de propagande et d'arranger un peu l'histoire. Sur 3 heures, c'est un peu court.
Oui,
Moi,
mais
dans
le
ma vie,
parallèle
si
est
tu veux, dans
assez
ma vie et la
évident.
culture que je vois pas la Russie, je vois pas l'influence russe, je vois pas l'armée russe. Par contre, je vois l'influence de la culture américaine partout, tout le temps, dans tout ce que je consomme, dans tout ce que je fais.
Oui.
Donc, il y a une espèce d'épouvantail russe là, qui franchement est inexistant dans ma vie,
Non, mais il ne s'agit
franchement.
pas de se laisser obséder par l'épouvantail russe, comme tu dis à juste titre, mais il s'agit d'être capable d'être solidaire à la fois des étudiantes et des étudiants états-uniens qui occupent les campus aujourd'hui et qui sont confrontés à une répression policière et à une campagne de chasse aux sorcières
Oui.
contre le wokisme, le soi-disant
Que nos
wokisme,
médias,
etc.,
c'est un énorme
que nos
plaisir de
médias.
dénoncer quand ça arrive là-bas.
Voilà, absolument. Et en même temps, d'être solidaire. Du peuple ukrainien dans ses revendications légitimes et des Russes adversaires de la guerre contre la répression qui les frappe. C'est ça l'internationalisme. C'est
Mais
pas se ranger dans un camp impérialiste plus distant contre un camp impérialiste
oui.
plus proche de nous.
Mais
Parce qu'avec ce raisonnement-là, je le répète, on aurait été avec l'Allemagne. Okay. Et certains l'ont fait. Certains ont fait cette erreur de croire que le traité de Versailles était tellement
oui.
injuste qu'il était justifié
Bien
que
sûr. Moi,
l'Allemagne
je dis qu'il faut se
réagisse et
mettre
se
avec personne.
réarme.
Si tous les pays occidentaux n'armaient pas l'Ukraine, la guerre aurait été finie au troisième mois. On le sait maintenant.
Oui, et les droits nationaux et démocratiques du peuple ukrainien seraient écrasés.
Et alors, par rapport aux centaines de milliers de morts, et alors, parce que la Russie demandait un... Je suis désolé,
Mais
mais...
c'est pas à nous de décider ça.
Ben
Toi,
si,
tu.
aussi, l'Occident a décidé. L'Occident a décidé.
Ce n'est pas à nous de décider, à la
On
place
a
du
décidé
peuple
en donnant des
ukrainien,
armes.
s'il doit capituler au nom
Non,
de
mais
l'évitement
c'est ce
d'un
qu'on a fait
massacre
pourtant.
ou de le faire.
On l'a
Non.
équipé et jusqu'au dernier Ukrainien. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que la société et le pays de l'Ukraine va être complètement démoli.
Et ils devaient faire
Complètement
quoi?
démoli.
Se défendre leurs droits avec des couteaux de cuisine?
Ben, la Suisse est un exemple, ou était un exemple, c'est-à-dire qu'avoir une posture de dénoncer ce qu'on souhaiterait ou pas, mais de rester neutre, c'est-à-dire de non-intervention. Et les Américains l'ont encore reconnu, ce qu'ils essayent de faire avec l'Ukraine et l'Europe aussi, n'est pas du tout d'aider l'Europe ou les droits démocratiques ukrainiens, ça j'y crois pas une seconde.
Non, ça moi non plus.
Okay,
ça moi non
d'accord.
plus.
Ils Mais veulent juste affaiblir la Russie, c'est tout. Donc en fait, tout le monde utilise l'Ukraine en prétendant qu'on l'aide alors qu'on ravage ce pays.
Je dirais plutôt que l'impérialisme américain et l'impérialisme occidental profitent de l'opportunité pour affaiblir la Russie, mais sans vouloir renverser Poutine ou renverser le régime au pouvoir en Russie, parce qu'ils ont trop peur d'un éclatement de la Fédération russe reproduisant l'éclatement de l'URSS.
Ils souhaiteraient quand même. Mais ce qu'on perd comme mesure, c'est que ces puissances, elles ont l'arme nucléaire. Donc tu dis oui à un pays qui va perdre une partie de sa souveraineté. Je regrette, mais sur le temps, évidemment, ça c'est quelque chose qui pourrait changer. Mais si tu crées des conditions où on peut faire une guerre atomique, mais j'ai envie de dire, on fait la pesée des intérêts à un moment donné. La planète Terre est menacée d'explosion, littéralement, parce qu'on joue avec le feu, quoi. C'est là où moi, je n'ai pas les mêmes curseurs, si tu veux.
Non, nous ne sommes vraiment pas d'accord sur cette question-là.
Ok, on va gentiment conclure. Qu'est-ce qui fait, Daniel Tanourouk, à la retraite, tu es toujours très actif, comme tu le disais tout à l'heure, après ne pouvoir pas profiter du bon temps que tu mériterais peut-être après toutes ces années de lutte et de travail. C'est une question qu'on pose à tous les gens qui viennent ici. C'est l'inspiration ou l'idéal derrière tes activités.
Ah, ça, c'est une question à laquelle je peux difficilement répondre sans émotion.
Eh bien, parfait.
Avec l'âge, j'ai de plus en plus difficile à contrôler mes émotions. Donc, je suis très prudent dans les réponses à cette question, à ce genre de questions. Mais disons, je suis viscéralement révolté par toute forme d'injustice sociale. C'est une très vieille, ça remonte très loin dans mon enfance, même dans ma petite enfance. Pour t'informer de cela, je suis né aux colonies et c'est pas de ma faute, bien entendu, mais je suis né aux colonies, je suis né dans un contexte colonial, j'ai vécu dans un contexte colonial jusqu'à mes 8 ans.
C'était quel pays ?
Au Congo belge, bien entendu, au Zaïre, au Congo actuel, République démocratique du Congo, et j'avais des liens très forts avec un jeune garçon africain qui était payé par mes parents pour me surveiller toute la journée dans le jardin, qui était donc mon aîné, qui était pour moi comme un grand frère. Et je crois que ça m'a profondément marqué dans mon parcours ultérieur, que donc la révolte contre le racisme, le colonialisme, l'impérialisme, l'injustice est quelque chose que je porte en moi très très intimement, et donc je peux pas, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi, donc je peux pas m'en défaire, ça fait partie de moi. Et aujourd'hui, évidemment, j'aborde les choses d'une manière plus rationnelle, entre guillemets, mais quand je constate que je peux encore être utile à quelque chose, eh bien je le fais. Je ne le fais pas par Je ne crois pas que je le fasse par égocentrisme. Je crois que ma démarche est sincère d'essayer de produire quelque chose d'utile. Donc récemment, j'ai été invité, par exemple, par l'Union départementale de la CGT de Loire-Atlantique pour un week-end d'animation et d'action, de débat sur l'éco-syndicalisme. Donc ils essayent justement, c'est un des exemples où les lignes bougent, selon moi, ils essayent de développer une pensée éco-syndicale à l'intérieur de leur organisation. Ils m'ont invité sur base de mon dernier bouquin, parce qu'ils trouvaient que ce bouquin a le grand avantage de mettre au centre de la question la lutte contre l'exploitation du travail et contre l'oppression des travailleurs et des travailleuses. Et donc, ça leur parlait. Ils m'ont invité pour cela. Et voilà, j'y vois la confirmation du fait que je peux encore apporter quelque chose. Et donc, je l'apporte volontiers.
À n'en pas douter. Et puis, comme c'est long format, eh bien, tu es souvent invité pour une raison. Et on pose des questions qui sont bien dans ton champ. Est-ce que tu aurais besoin d'un espace pour parler un peu d'autres choses qui te fait vibrer, qui te passionne, ou au-delà de tout ça?
Non, c'est vraiment, c'est mon truc, quoi. C'est la crise écologique et ses ramifications, son imbrication avec la crise sociale. C'est ça qui me, c'est mon truc, ça me passionne et j'essaye d'être, de parler de ce dont je connais. Quand je ne sais pas répondre à une question, je le dis. J'ai appris à dire non, je ne sais pas, je ne connais pas, je suis hors de mon domaine de compétences. Donc là, on vient d'avoir une discussion plus idéologique, stratégique sur les questions de géostratégie. Je ne suis pas non plus ultra compétent sur ces questions-là. J'ai mes convictions, je les ai exprimées comme toi, je pense. Mais je n'écrirai jamais un bouquin là-dessus. J'en suis totalement incapable. Même un long article, je ne le ferai pas. J'ai des idées et puis je les confronte. J'essaye de les vérifier ou de les contester. Ceci dit, l'imbrication entre la crise sociale et la crise écologique est un sujet suffisamment vaste que pour occuper mes loisirs.
J'y vois également un levier fondamental pour réconcilier, puisque pour moi c'est tout le but, c'est de retrouver une réconciliation les uns avec les autres, se réentendre et puis œuvrer ensemble, parce que ça c'est un peu naïf parfois, hein, mais je pense que la grande majorité, on ne souhaite qu'une chose, plus de paix, plus d'harmonie, plus de beauté. En tout cas, je sens une ouverture du cœur chez toi, Daniel Tanuro, c'est d'ailleurs bien pour ça. Quand j'avais lu tes livres, j'avais senti ça et que je t'ai invité. Merci de ton passage en Suisse aussi pour m'avoir accordé un peu de ton temps. C'était un grand plaisir.
Merci à toi.
Et je te souhaite une bonne continuation, un bon
Merci.
retour en Belgique et un bon séjour en Suisse si se poursuit un petit peu.
OK, merci beaucoup.
Ciao.
Ciao.